Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du Zoom de l'info. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la construction avec un promoteur immobilier, Urbat. Urbat qui fait partie du groupe Vinci, qui est basé à Montpellier. J'ai le plaisir de recevoir son président. Bonjour Jean-Christophe Laurent.
Bonjour Bérénice.
Ravie de vous recevoir. Alors Urbat, c'est des villes plus vertueuses avant tout. C'est un peu votre credo. Des quartiers plus verts, des logements moins énergivores. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Urbat, promoteur immobilier ?
Oui, alors en deux mots, Urbat existe depuis 1975, structure familiale. Son président et fondateur Alain Clauzel s'est retiré de ses activités il y a 5 ans. Et dans ce contexte-là, n'ayant pas de repreneur familial, il a décidé de céder son entreprise. Et c'est à ce moment-là que Vinci Immobilier s'est positionné pour constituer une offre primo-accédante, puisque ouais. Urbat était très clairement positionné sur le marché primo-accédant, là où Vinci Immobilier était plutôt positionné sur le moyen haut de gamme.
Oui, c'est vrai voilà. Que c'était pas trop pour les primo-accédants. Donc, primo-accédants, rappelle, c'est des gens qui deviennent propriétaires pour la première fois
c'est
de
ça,
leur résidence
qui
principale.
Qui deviennent soit propriétaires pour la première fois, soit éventuellement investisseurs pour la première fois.
Puisqu'on
s'adresse aussi aux primo-investisseurs. Un élément à noter, Urbat a une activité qui est essentiellement concentrée sur le secteur méridional de la France. Donc le siège est à Montpellier. 4 agences principales. Toulouse, l'agence de Montpellier qui s'occupe du secteur Languedoc. Marseille qui s'occupe de tout le secteur PACA. Et l'agence de Lyon, qui est l'activité la plus septentrionale d'Urbat.
Forcément. Voilà. Un petit mot, alors peut-être sur la conjoncture. C'est vrai que j'ai reçu Pascal Boulanger il y a 2 semaines, le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Clairement, ça va mal. Les chiffres n'ont jamais été aussi catastrophiques. Je reprends ces mots. C'est pire que pendant le confinement. Un petit mot peut-être justement sur votre actualité. Comment ça se passe pour Urbat ?
On n'échappe pas à l'ambiance globale. Donc Urbat en 2023, c'est en gros moins 35% d'activité. Donc c'est dans la moyenne de ce qu'ont connu les promoteurs sur l'année 2023. 2024, on va dire que on s'est habitué à la crise, simplement. Mais la crise, elle est toujours là, elle est toujours très présente. Et les chiffres 2024 ne sont pas beaucoup plus engageants que ceux de l'année 2023. La frange de clientèle qui a été la plus impactée est forcément...
Les primo-accédants.
Les primo-accédants.
Vous êtes très impactés aussi.
On est extrêmement impactés. Pour donner un simple exemple, illustré, il y a 3 ans, avec des taux qui étaient entre 1 et 1,5% des taux d'intérêt bancaires, sur une mensualité à 1 200 €, un accédant pouvait prétendre à acheter un logement à environ 300 000 €. Voilà. Avec la même mensualité, avec les taux d'intérêt aujourd'hui, le 300 000 euros est devenu 210 000 euros. Donc ça illustre très bien la difficulté qu'ont eu les primo-accédants et qu'ont les primo-accédants aujourd'hui pour se financer. Les banques ont aussi restreint l'accès au crédit. C'est en train de changer en 2024.
Oui, alors on dit que toutes les banques sont revenues sur le marché depuis janvier.
Oui,
c'est ce que
absolument.
Vous constatez aussi,
les
vos
clients.
Les
banques sont revenues sur le marché à partir du mois de janvier. On note une souplesse dans... l'instruction des dossiers bancaires aujourd'hui.
Petite baisse des taux de la BCE annoncée la semaine dernière.
Il y a eu déjà une petite baisse des taux depuis le début de l'année.
Ouais.
Et la BCE a annoncé effectivement une baisse d'un demi-point sur ses taux directeurs dont les effets, je pense, se feront sentir et on l'espère positivement dans les semaines et les mois qui viennent.
Voilà. Alors certaines banques avaient déjà anticipé cette baisse des taux, mais on s'attend quand même à une légère. Ça ne sera pas de grand chose.
Oui,
mais
on va dire que les taux étaient montés aux alentours de 4,5% à l'automne. Ils sont redescendus et se stabilisent aujourd'hui aux alentours des 4 points. S'ils baissent encore d'un demi-point ou d'un point, je pense que les choses pourraient changer un peu.
Donc pour les primo-accédants, là on parle
pour les primo-accédants. Sur le sujet de l'investissement, on sait que l'investissement en France, historiquement, est efficace quand il est accompagné de dispositions fiscales. Ces dispositions fiscales prennent fin à la fin de l'année en cours et on est très inquiet sur la suite. On se rend compte effectivement que le marché s'est érodé et ça c'est valable pour Urbat mais pour l'ensemble des promoteurs nationaux, s'est érodé sur la frange des investisseurs et primo-investisseurs, puisque aujourd'hui, c'est une démarche d'acquisition qui est quasiment à l'arrêt. Mmh.
Voilà. Alors selon vous, là justement, c'est intéressant ce que vous dites, vous parlez des régimes fiscaux, hein, par exemple le Pinel, il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous rejoignez les propositions de la FPI, donc la Fédération des promoteurs immobiliers
Nous, on rejoint toutes les propositions qui vont permettre de faire avancer les choses. Le logement en France est devenu trop cher. Ouais. Voilà, il est devenu trop cher parce que le foncier est rare, donc le foncier a flambé. On a connu une hausse exponentielle des coûts de construction liés à la raréfaction des approvisionnements suite notamment au conflit en Ukraine.
Ouais. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, ça ? Est-ce qu'il y a encore des matières premières qui sont très chères ?
C'est en train de se réguler, mais ce n'est pas pour autant que les matériaux baissent.
D'accord.
Voilà, on va dire qu'ils ont arrêté d'augmenter, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont baissé.
Donc vous avez réduit vos marges, en fait vous.
Mais bien sûr. Aujourd'hui, c'est non seulement on a réduit nos marges, mais je vais plus loin. Aujourd'hui, les promoteurs, tous les promoteurs perdent de l'argent. Voilà, c'est l'apanage de ces périodes de crise où il faut être capable de tenir le choc. Mais pour vous schématiser le principe, les coûts de construction ont augmenté de l'ordre de 15 à 20% en 3 ans. Mm. Le foncier n'a pas baissé. Avec ajoutez ça à la hausse des taux d'intérêt, le logement neuf en France est devenu inaccessible. Mmh. Voilà.
Alors, on voit beaucoup de promoteurs qui mettent la clé sous la porte. Comment vous faites pour tenir le cap
Vous l'avez dit en introduction, Bérénice, nous, on a cette chance d'appartenir à un grand groupe qui est le groupe Vinci. Nous sommes filiale de Vinci Immobilier, donc la structure de promotion immobilière du groupe Vinci. Ça nous donne une solidité qui nous permet, en courbant les chines, passer ces périodes difficiles. Malheureusement, tous nos confrères promoteurs n'ont pas cette chance. Et donc, il y a effectivement, il y a de la casse, on va le dire comme ça, sur les activités de promotion immobilière. Mais, et c'est ce que Pascal Boulanger dit également conjointement avec la Fédération du bâtiment, il y a une grosse conséquence sur le monde du BTP d'une façon générale, qui est pourvoyeur d'emplois et qui commence à connaître des difficultés criantes. Nous, il n'y a pas un jour où on n'a pas une entreprise partenaire qui était encore solide il y a un an, et qui, malheureusement, s'effondre et met la clé sous la porte.
Alors, c'est vrai ce que vous dites, nous étions avec Olivier Salleron, le président de la FFB, samedi sur Sud Radio, et c'est vrai que c'est 300 000 emplois qui sont... Alors, sur tout le secteur, promoteur, bâtiment, notaire, le secteur du logement, de la construction, c'est 300 000 emplois donc, qui sont menacés sérieusement.
Et c'est une menace pour nos activités, nous, de promotion immobilière. Nous, on ne sait rien faire sans les entreprises, et qu'on touche du bois le jour où le marché repartira. C'est encore une menace qui pèse sur la dynamique de l'activité de reprise, c'est est-ce qu'on trouvera des entreprises pour réaliser nos travaux ? C'est un vrai sujet.
Alors, on va parler de, justement, vos objectifs, vos stratégies. Vous avez décidé de développer le logement modulable. Qu'est-ce que c'est ?
Oui,
et pourquoi ce choix ?
Bérénice, vous connaissez ce fameux logement qu'on visite, dans lequel on souhaite faire des travaux, et on se met à taper sur les murs et les cloisons pour savoir si on a des murs porteurs.
C'est du placo.
Voilà, est-ce que ça sonne creux ou est-ce que ça sonne plein ?
Le papa qui dit ça, c'est pas porteur.
On tape dedans, on dit, oula, ça c'est porteur. Le mur porteur, par définition, on ne peut pas le toucher.
Ouais.
Donc, clairement...
Ou aussi, compliqué, il faut mettre un IPN.
C'est très compliqué, ça coûte très cher, il faut l'autorisation de la copropriété. C'est extrêmement compliqué, donc autant dire que c'est un logement qui n'est absolument pas modulable. On a décidé d'adopter un procédé constructif qu'on appelle le poteau-poutre, qui fait qu'à l'intérieur du logement, on localise les gaines techniques sur l'extérieur des parois du logement, mais on n'a plus du tout de mur porteur. Ce qui fait que du coup, quand on parle d'un T3 de 60 ou 65 mètres carrés, toutes les configurations à l'intérieur sont possibles. Et donc, dans ce contexte-là, Urbat a développé une offre en base qui nous permet dès le premier contact avec le client, de proposer trois plans distincts en fonction des usages et des appétences du client.
Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce que vous dites, en moyenne on reste 8 ans dans un logement.
Oui, c'est ça.
Donc quand la famille s'agrandit ou justement
c'est déjà effectivement
se rétrécit.
Vous faites bien de le préciser, c'est déjà en base on a la possibilité de choisir la configuration de ce logement et puis après au fur et à mesure que les usages évoluent, ça peut être l'ado qui a quitté le logement ou le petit deuxième au contraire qui arrive, et ben on a cette capacité de reconfigurer le logement dans le sens que l'on souhaite donner à son usage.
Est-ce que ça répond à une demande ? Vous avez senti cette demande de la part des acquéreurs ?
Oui, ça répond clairement à une demande et ça permet d'inscrire nos acquéreurs dans un parcours de vie, finalement. C'est que quand on ne peut pas faire évoluer son logement et que la cellule familiale se modifie, on est obligé de changer de logement. Voilà. Donc là, on offre des solutions qui permettent à nos accédants de rester dans leur logement en l'adaptant au fur et à mesure à son mode de vie.
Est-ce que ça coûte moins cher un logement modulable ?
Ça coûte pas moins cher, mais par contre, il est modulable. Alors, là où ça coûte moins cher, c'est que on a défini un concept qui fait que dans un T3, on peut arriver à organiser une quatrième pièce qui est isolée, fermée.
Donc ça nous évite un déménagement.
Ça évite un déménagement. Et deux, ça permet à une petite famille qui a deux enfants et qui se positionne plutôt logiquement sur un T4, puisqu'on souhaite toujours que son enfant ait chacun sa chambre, mais qui malheureusement, compte tenu de l'inflation du prix de nos logements neufs ces dernières années, qui ne peut pas se permettre d'acheter un T4, on a la possibilité de le diriger vers un T3 intelligemment organisé. Ce qui lui permet, derrière, au fur et à mesure que les ressources de la famille vont augmenter, de pouvoir un jour aller dans un logement un peu plus spacieux, mais en leur proposant une solution d'attente qui reste extrêmement confortable.
Ou si on veut, par exemple, télétravailler, on crée un petit
bureau.
C'est
exactement ça.
On a un enfant.
Le petit bureau, il est proposé en base par Urbat sur tous ses plans. On a un espace qui est déjà prévu dans les logements. Mais effectivement, on peut aller plus loin en ayant un bureau complètement fermé.
Alors ça, donc, c'est déjà mis en place. C'est pour 2024.
Oui. Alors, en fait, tous les permis de construire qu'on a déposés depuis le 1er janvier 2023, donc depuis un an et demi, ont été déposés selon ce concept. Et les premières opérations, la première opération mise en commercialisation au bénéfice de ces aménagements interviendra dans 15 jours et ça se situe à côté de Pau.
D'accord. Est-ce que vous utilisez le hors-site pour ces logements modulables ou pas du tout ?
Non, pas encore pour l'instant. Encore. C'est une piste qu'on est en train de travailler, que tous les opérateurs sont en train de travailler. C'est pas si simple.
C'est pas si simple. C'est pas toujours possible. Hein.
C'est pas toujours possible.
C'est pas si simple que ça.
Et on n'est pas sûr que les avantages soient déterminants.
D'accord. Voilà. Donc, quand on parle d'avantages, c'est le coût, la main-d'œuvre, etc.
Oui. Après, ça suppose des logistiques industrielles qui sont un peu différentes.
Voilà. Un petit mot peut-être pour terminer sur l'avenir, l'année déjà 2024. Comment vous voyez cette fin d'année, puis l'année 2025 ?
Écoutez, on vit avec l'optimisme chevillé au corps. Des crises, on en a connu. Moi, j'ai peur que on soit quand même rentré dans une crise assez systémique sur le coût du logement neuf. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que le prix du foncier va baisser ? Je ne crois pas. Le foncier, il est rare. Et donc, le prix du foncier ne diminuera pas. Est-ce qu'on va vers une diminution des coûts techniques ? Je ne suis pas sûr non plus. Je ne crois pas que le prix des matériaux va baisser. On reste dans l'inflation des normes. Voilà, qui renchérissent le logement. Alors, il y a la FPI a sollicité des assouplissements de ces normes. Je ne crois pas qu'on fasse, ce soit pas la tendance je ne crois pas que ce soit la tendance de faire machine arrière sur ce sujet. Donc, on est assez craintif de se trouver à un moment en déconnexion avec la capacité des Français d'acquérir. C'est pour ça que on est en train de travailler, nous Urbat, activement sur les sujets de la rénovation.
Oui.
Et d'aller acheter des logements qui sont aujourd'hui en secteur dégradé, de pouvoir les rénover de façon significative pour qu'ils apportent le confort du neuf. Ça nous permettra de travailler sur des démarches de recyclage urbain qui sont des démarches qui nous sont imposées de toute façon
Bien sûr.
L'évolution des normes et des règles, et notamment au travers du zéro artificialisation nette. Et on se rend compte que nous, Urbat, sur notre cible de primo accédant, c'est une voie qui nous permet de proposer du logement qui reste accessible à ces primo-accédants.
Donc réhabilitation, ça peut être des bureaux, hein, par exemple.
Alors ça peut être de la transformation de bureaux en logement.
C'est un peu cher, ça. Hein.
Alors ça, c'est des réhabilitations lourdes qui finalement s'apparentent quasiment à du neuf.
D'accord.
Donc on parle plutôt des sujets de la rénovation des logements
D'accord.
dégradés,
okay.
Tout simplement pour les remettre aux normes qui prévalent aujourd'hui.
Eh bien, merci infiniment, Jean-Christophe Laurent. Alors, le site internet, c'est urbat.com, tout simplement.
Urbat.com.
Merci beaucoup voilà, pour cette interview. Et on se retrouve très vite sur Radio Immo.
Merci de votre accueil.
Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.